Alors, on va tourner ensemble dans 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel. Oh, je joue de l'harmonica ici un matin. Samuel, vous avez pris les feuilles de notes sur la table. Alors, ce matin, on couvre ensemble 1 et 2 Samuel. Nous sommes dans le cours de survol de la Bible, la partie de l'Ancien Testament, et nous allons survoler ensemble les livres de 1 et 2 Samuel. On va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, Père, nous voulons te remercier pour ta présence ici au milieu de nous. Ta présence, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Je veux te bénir, Seigneur, pour ta sainte parole qui m'a encore cette semaine édifié, corrigé, rappelé à l'ordre, qui a rempli mon cœur de louanges, Seigneur. Et alors même que je survolais ces deux merveilleux livres de ta parole, Seigneur, mon cœur était édifié de voir combien tu es un Dieu bon, combien tu es merveilleux, Seigneur. Et combien tu cherches des hommes et des femmes qui auront un cœur selon ton cœur. Je te demande de nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Est-ce que tu entends ce que j'entends, Dave? Oui? J'ai comme un petit écho de métal. Là. Oh! Merci. Alors... 1 et 2 Samuel. Quelqu'un pourrait nous dire vos impressions, quelque chose qui vous a touché depuis des années à travers ce livre-là, à travers ces, en fait, je dis ce livre, d'accord, dans la version hébraïque de la Bible, c'est un livre, 1 et 2 Samuel. C'est l'histoire des deux premiers rois. On va les traiter un peu comme ça aussi ce matin. Qu'est-ce que ces livres-là évoquent pour vous en guise d'entrée en matière? Une transition. Oui, c'est vrai. Des juges au roi, d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez qui ça évoque quelque chose d'un peu plus dévotionnel? Ou... Oui, Nathalie. Que c'est difficile à... pas avoir le cœur sensible, OK, pour lire 1 et 2 Samuel, 1 Samuel particulièrement. Mais moi, je le trouve moins dur que les juges, je t'avoue. Les juges, c'est encore plus, plus dur, pas mal. Mais, OK. Oui, Gérard. Saül puis David, oui. Okay.
Et David qui représente la grâce, qui lui est toujours en repentance et demande à Dieu de créer en lui un cœur pur. Alors, c'est un peu. Je vois beaucoup la grâce et la loi dans ça.
OK. Peut-être, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être la nuance que je ferais, je la mettrais comme ça. Je vois un homme charnel puis un homme spirituel. Parce que dans les deux cas, en fait, Saül est très infidèle à la loi, alors que David l'est davantage. Mais je vois Saül, si on voulait faire un parallèle avec les chrétiens, le chrétien charnel, puis David, le chrétien spirituel. D'autres choses? Dernière personne, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Oui?
Je suis particulièrement qu'il est le début de comment Dieu peut répondre à une prière qui lui est sincère. On voit l'attitude de Anne,
oui.
On voit l'attitude de sa rivale,
oui.
Et voit comment elle se répand devant le Seigneur et avec quelle grâce le Seigneur répond à sa prière. Est davantage encourageant même pour moi de savoir que ma confiance doit être dans la prière adressée à Dieu que dans les situations et les persécutions vécues de l'extérieur.
C'est bon, merci, merci. Très édifié par la prière de Anne et comment Dieu répond à la prière de Anne. OK, dernière personne, André. Oui, David avait la crainte de l'Éternel. Ouais, Saül n'avait pas compris, puis Salomon non plus, en définitive, même si des paroles de sagesse qui viennent de Dieu à travers lui. Excellent. Alors, juste un petit retour sur la question de la loi du Lévira puis la loi du Rachat. La question avait été soulevée la semaine dernière. Donc, c'est une parenthèse là, pour ceux qui écouteront l'audio. Je reviens sur le cours de la semaine dernière. Dans le livre de Ruth, au moment où il est question du rachat du terrain, il y a deux lois qui interviennent, d'accord? Puis, je n'ai pas une réponse définitive comment exactement tout ça est géré, je dirais, là, par Boaz. Il y avait donc dans l'Ancien Testament une première loi qui est la loi du rachat, qui permettait si un homme s'était endetté, tout ça, et puis en était venu à devoir vendre sa terre, se départir de sa terre, par exemple, pour des raisons de dette, tout ça, par filiation, par lien du sang, on pouvait, par priorité, ceux qui étaient dans sa famille avaient le droit de venir et de racheter cette terre-là dans le but implicite, pas expressément dit, mais dans le but implicite de rendre la terre à celui qui l'avait perdue. Et c'est une manière un peu de la garder dans la famille. Mais il faut se rappeler, par exemple, qu'en Israël, il y avait la loi du Jubilé qui faisait que, de toute manière, si jamais cette terre-là n'était pas rachetée, au jour du Jubilé, la terre était rendue à son propriétaire initial. D'accord? Est-ce que vous me suivez sur ça? Ça, c'est la loi du rachat. Il y avait une autre loi qui est la loi du Lévira. La loi du Lévira visait à préserver la descendance d'un homme, préserver sa famille en même temps, mais préserver la descendance d'un homme en sorte à ce que si un homme en venait à décéder sans avoir donné une descendance, sans avoir donné un fils à son épouse, eh bien le frère, et j'imagine que ça allait par priorité de frère aîné, mais le frère avait même un devoir de prendre cette femme-là pour épouse afin de donner une descendance. D'accord? Et donc, ça, c'était une priorité. Lorsqu'on arrive dans le livre de Ruth, ces deux lois-là sont jointes. Ça a beaucoup de sens. D'accord? C'est censé que ces deux lois-là soient jointes, puisque, bien, dans certains cas, il y avait à la fois veuvage, puis en même temps, cette question-là de la pauvreté avec la terre et tout ça. Là où ce n'est pas tout à fait clair comment est-ce que c'est géré puis comment est-ce que la loi était appliquée, juste une autre parenthèse rapidement, simplement pour dire qu'on a les lois dans le Pentateuque, et lorsqu'on lit après ça les livres, que ce soit les livres des Juges, Ruth, lorsqu'on avance dans les livres, à différents moments, on voit comment le peuple en était venu soit à comprendre et appliquer la loi, soit des fois à la détourner un peu, comment est-ce que ça avait évolué à travers le temps. Par exemple, je vais donner un exemple qui va vous revenir à l'esprit si vous êtes familier avec le Nouveau Testament. Lorsqu'il y a la question, par exemple, du divorce, et puis... En fin de compte, ce que Jésus dit, c'est que les Juifs de l'époque, plusieurs d'entre eux, il y avait deux écoles de pensée en Israël. Il y avait une école de pensée qui était très sévère, et c'était vraiment dans un cas d'adultère physique où c'était possible de demander le divorce. Mais dans d'autres cas, ils s'étaient servis de la loi de Moïse qui commandait qu'il y ait une lettre de divorce de donner dans le cas où un homme trouvait quelque chose d'impur en son épouse. Il en était venu à se servir de ça pour n'importe quoi. T'sais. Fait que je veux dire, le poulet était trop cuit. Tu donnais une lettre de divorce à ta femme, puis pour eux, c'était légitime de le faire. Et donc, lorsqu'on arrive dans ce passage-là, dans le Nouveau Testament, on voit un peu comment, à travers les siècles, une loi qui était avec un but assez clair, assez précis, en est venue à être détournée un peu pour pouvoir permettre aux hommes de faire un peu ce qu'ils voulaient. Lorsqu'on arrive dans le livre de Ruth, bien, on a cette situation où il y a ces deux lois-là qui sont en fonction, si je peux dire, celle du rachat et celle du Lévira. Ce qui n'est pas tout à fait clair, c'est est-ce que la terre avait été vendue avant leur départ pour se rendre dans la terre de Moab? Est-ce que cette terre-là avait déjà été vendue? Et lorsque Naomi revient, dans le fond, elle veut faire appel à son droit de rachat sur la terre. Et comme elle n'avait peut-être pas les moyens pour le faire, ça pouvait être une manière pour elle d'aller chercher un peu d'argent en disant « j'ai un droit de rachat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'impliquer là-dedans, puis je vais céder mon droit de rachat à cette personne-là, elle va pouvoir récupérer cette terre-là, puis aller en tirer un profit. » Est-ce que c'est... Et puis peut-être même, par le fait même, dire « ben tu vas me laisser une petite portion de la terre pour qu'on puisse vivre, moi et ma belle-fille. » Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer ici? Voyez-vous, c'est pas, on n'a pas tous ces détails-là dans le récit. Alors lorsqu'on va aller comprendre exactement comment, qu'est-ce qui se passait, Bien, on a les deux lois. Alors, ce qui arrive, c'est que Boaz s'en va vers celui qui avait un droit de rachat sur la terre, en préséance sur lui. À qui est la terre à ce moment-là exactement? Comme je vous dis, ce n'est pas tout à fait clair, mais le droit est là. Il s'en va vers celui qui a droit de rachat juste avant lui, dans le rang avant lui. Et puis, il lui dit, bien, tu peux la racheter. Si tu ne la veux pas, moi, je la rachète. Le gars dit, c'est correct, je vais la racheter, ça m'intéresse, il y a de l'argent à faire avec ça. Mais là, Boaz lui dit, soit dit en passant, il y a une veuve qui, je m'excuse, mesdames, de le dire comme ça, là, mais qui est attachée à ce temps-là. Je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est ça, d'accord? Et donc, là, à ce moment-là, pour quelle raison, on ne sait pas. Peut-être que cet homme-là n'avait même pas de descendance lui-même à ce moment-là. Et puis, il n'était pas intéressé à dire, mais je vais donner une descendance à quelqu'un d'autre de ma famille. Il ne voulait pas partager son héritage. Quelles sont les raisons? On ne le sait pas. Mais donc, Boaz est en train d'invoquer ces deux lois-là. Et il semble que culturellement, pour les 10 hommes sages qui étaient là, qui écoutaient, cela faisait beaucoup de sens de dire, tu ne vas pas juste te prévaloir du droit d'aller récupérer cette terre-là, mais si c'est possible de donner une descendance, bien, tu vas le faire aussi. Et donc, il va falloir que tu prennes aussi pour épouse Ruth en même temps. Est-ce que ça clarifie un peu? Oui, c'est bon? OK, merci. Alors, on revient dans notre livre de Samuel. Alors, effectivement, comme Stéphane a mentionné tout à l'heure, on est dans une période de transition. Oui, Suzy?
Je me suis juste avec une question.
Tout bref, par exemple.
Mettons qu'en
OK. La question de Suzy, c'est à qui va aller, c'est-à-dire, disons, l'aîné de Boaz va hériter de quoi? Bien, techniquement, selon la loi du rachat, Boaz a deux descendants. Il y en a une qui n'est pas la sienne. Le premier fils de Ruth aurait dû être le descendant de là, j'oublie le nom, des fils de Élimélec, là, d'accord? Et donc, c'est ça qui arrivait, c'est que lorsque quelqu'un obéissait à cette loi du Lévirat, en général, c'était une deuxième épouse, d'accord? Et donc, mon premier fils qui va naître de cette femme-là, c'est pas mon descendant. C'est le descendant de l'homme qui est décédé, d'accord? Et donc, c'est lui qui va prendre. C'est pour ça que, si je reviens dans le contexte de l'histoire de Ruth, bien, si cet homme-là qui avait le droit au rachat, mais qui aurait dû aussi assumer la loi du Lévirat, admettons que lui, il n'y a pas d'épouse, cet homme-là. Ça veut dire ma première épouse. Voyez-vous, là, j'arrive dans quelque chose de technique, là. Mon premier fils va hériter de quoi? De nos deux terres? Ça va être l'héritage de qui? Est-ce que je vais diviser mon héritage? Fait que, je vous avoue, je ne sais pas. Maintenant, s'il y en a vraiment qui sont mordus de ça, le Talmud a été écrit, entre autres, à étudier toutes ces lois-là, puis là, vous voyez les écoles de pensée, puis comment est-ce qu'ils appliquaient ça. D'accord? Et c'est pour ça, entre autres, qu'il y avait des juges en Israël. D'accord? Vous rappelez, par exemple, la situation très, très notoire avec Salomon qui va trancher, pour faire un mauvais jeu de mots, dans une question. D'accord? Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait des juges en Israël. Ils étaient là pour aller voir, des fois, l'application très concrète de la loi dans des situations où les détails de la loi ne sont pas si précis nécessairement. C'est bon? Alors, dans Samuel, donc, effectivement, c'est un livre de transition. D'accord? Le livre de Samuel nous présente au début du livre les deux derniers juges en Israël qui vont être Élie, le sacrificateur, non pas le prophète, mais Élie, le sacrificateur, et puis ensuite de ça, Samuel, d'accord? Qui vont être les deux derniers juges en Israël avant qu'on commence la lignée des rois en Israël. La période qu'on vient de terminer, comme je l'ai mentionné l'autre semaine, on parle de entre 200 et 400 ans, la période des juges. Ce n'est pas tout à fait clair. Ça s'entrecoupe un peu avec l'ère de Josué et puis après ça, lorsqu'on arrive dans cette période-là. Donc, grosso modo, un peu plus de 300 ans. Comme je le mentionnais tout à l'heure, dans la Bible hébraïque, on va parler du livre de Samuel, qui est en somme l'histoire de David. D'accord? C'est présenté comme ça, même si le nom c'est Samuel, parce que le livre commence avec ce prophète, juge, sacrificateur Samuel. Ça commence avec son histoire. Dans la Bible hébraïque, on va présenter ces deux livres-là comme un livre, le livre de Samuel. Ils ont été séparés éventuellement en deux. Je ne suis pas certain si c'est dans la Septante que ça a été séparé ou si c'est ultérieurement, là, je vous induirai en erreur. Mais donc, en gros, lorsqu'on essaie de résumer ces deux livres-là, bien dans le livre de 1 Samuel, vous avez la mise en place du premier roi, Vous avez sa déchéance, si on peut dire, et l'évocation du deuxième roi qui va être poursuivi par Saül, tout ça. Et 1 Samuel se termine avec la fin de la vie de Saül. 2 Samuel, c'est la vie de David comme roi, c'est toute sa royauté, à partir du moment où il va être intronisé roi. D'accord? En gros, c'est ça qu'on a pour ces deux livres-là. En quoi est-ce que le livre de Samuel est important dans notre compréhension du salut, notre compréhension de ce que représente Christ, l'œuvre de Christ? En quoi ce livre-là ou ces deux livres-là sont importants? Je vais le dire là, comme ça, là, dans notre compréhension théologique de l'œuvre de Christ. Ça a l'air intelligent, c'est comme ça. En quoi est-ce que c'est important? Oui, non? Bien, on va voir apparaître toute cette idée, toute cette question de la royauté. D'accord? Et Dieu désirait être roi. C'est Dieu le roi d'Israël. À partir du moment où Dieu s'est choisi Israël comme peuple, comme tous les rois qui traitaient alliance avec le peuple sur lequel ils étaient placés, c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Et on va voir dans ce livre-là apparaître toute cette idée où Israël est insatisfaite d'être placé sous l'autorité de juges, de plusieurs juges, et il se compare aux autres nations, s'estime inférieur aux autres nations parce qu'ils n'ont pas un héros à désigner comme leur juge, leur chef de guerre, tout ça. Et donc, ils vont demander ce roi-là qui va venir sur eux. En faisant cela, ils sont en train de rejeter l'Éternel. Ils ne sont pas en train de rejeter les juges, ils ne sont pas en train de rejeter Samuel. Dieu prend ça comme une offense personnelle. Vous êtes en train de me rejeter. Très bien, je vais vous donner des rois à votre mesure. Ce sont des hommes, des pécheurs. Jusqu'au jour où l'Éternel reviendra comme roi sur son peuple, Christ. D'accord? Alors, dans notre compréhension de l'œuvre de Christ, de ce qu'il est, Christ est venu rétablir cette idée qu'il ne doit y avoir personne entre le peuple de Dieu et Dieu. Et donc, Dieu le Fils, Dieu le roi d'Israël, revient établir sa royauté. D'accord? Et bien sûr, on voit toute l'œuvre de grâce à travers ça, puisque Dieu a décidé d'honorer un homme comme David, qui demeurait quand même un pécheur, puis c'est de sa descendance que le Fils va venir. On voit vraiment comme un... Je n'oserais pas dire un ajustement, parce que c'était dans les desseins de Dieu. Là. Oui, Suzy. Sa lignée va être éternelle. Oui. Absolument. À la lumière de ce que nous, on connaît maintenant. Maintenant, pour les contemporains de Samuel, même pour ceux qui ont suivi après, c'était vraiment pas évident. À travers les prophètes, ils vont comprendre que cette promesse-là était liée au Messie, qui lui devait régner éternellement. Donc, ils vont comprendre ce lien-là plus tard. Mais oui, alors on voit apparaître les desseins de Dieu exactement là-dedans. Puis, on voit comment est-ce que Dieu fonctionne avec les hommes. Mais rappelez-vous, lorsque Dieu est allé chercher Israël en Égypte, lorsqu'il est allé chercher la descendance d'Abraham en Égypte, c'était pour les conduire dans une terre promise où il serait en relation avec eux. Et il leur manifestait qu'il allait être en relation directe lui-même avec eux, sans roi. C'est lui qui allait être le roi, par la maison de l'Éternel qui allait être présente. Et donc, la manifestation de Dieu, la Shekinah, allait être toujours présente là, sur cette maison-là. Et donc, Dieu allait être lui-même présent constamment. D'accord? Israël s'est rebellé contre ça, puis il a dit, non, place quelqu'un entre toi et nous, que nous allons pouvoir voir, qu'on va pouvoir admirer, qui va être un héros pour nous. Dieu se prête au jeu, mais encore une fois, les desseins éternels de Dieu sont parfaits. Donc, Dieu connaissait toute cette histoire-là et savait que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, allait venir. Et à ce moment-là, les choses vont être rétablies comme elles doivent l'être. Une des implications extrêmement concrètes pour nous actuellement, c'est que nous avons un roi. Comprenez, lorsque vous et moi, on a l'impression des fois que notre Dieu est invisible, puis il n'est pas présent, puis on cherche parmi les hommes des gens qui peuvent nous donner toutes les réponses qu'on a besoin, puis on va avoir des gens à élever devant nous parce qu'on veut avoir des gens à suivre. Puis vous, ce phénomène-là se manifeste dans des églises, d'accord? Vous avez des pasteurs qui sont des petits rois vraiment, et ils sont suivis, ils sont admirés, il y a un culte de la personnalité autour de ces individus-là. Mais c'est vraiment détourner l'attention qui est censée être tournée vers notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ qui règne actuellement. Et dans la mesure où, dans mon cœur, je vais être là puis je vais dire, oui, mais je voudrais quelque chose de plus visible. Je suis en train de reprendre le discours d'Israël. Je suis en train de reprendre le discours d'Israël qui disait, non, mais on en veut un qui soit là devant nous, là, puis qui va nous diriger dans la bataille. Et pourtant, Christ nous dit, je suis là, je te dirige dans la bataille. Oui, Gérard.
Est-ce que vous avez encore une petite feuille?
Oui, elles sont sur la table derrière, à moins qu'elles aient été déplacées. On a imprimé 40 cette semaine. S'il n'y en a pas, allez au kiosque d'information, ils en ont des copies en réserve. Oui.
Dans la même ligne de pensée qu'elle mentionnait tantôt, c'est qu'ils ont dit, OK, c'est pas toi qu'on va rejeter, c'est moi qu'on rejette. Mais je vais leur en donner un roi, mais voilà les conditions qu'il va y avoir. Ces rois-là vont leur faire la misure.
Oui, oui.
Ces rois-là vont leur imposer des choses que le peuple ne voudra pas.
Oui.
Et je vais faire en sorte qu'ils vont finir par me chercher un jour.
Oui. Alors que notre roi à nous, lorsqu'il nous a invités à rentrer dans son alliance avec lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos parce que mon joug est doux et paisible. D'accord? Ça, c'est notre roi, qui n'est pas un roi humain, capricieux, charnel, mais un roi parfait. Alors, si on voulait résumer le thème du livre de Samuel, au bas de la première page, Dieu règnera sur Israël par l'entremise du roi qu'il choisira. Ce roi devra garder l'alliance et obéir à la loi de Dieu pour être un bon berger pour le peuple. Et ce qu'on voit déjà apparaître, c'est le thème qui va être développé dans les livres subséquents. Ce sont des rois pécheurs. Ce sont des rois pécheurs. Et donc, Israël était bien mieux avec son roi, l'Éternel directement. Date de rédaction, c'est difficile à définir. Le seul indice qu'on a, c'est vers la fin du deuxième paragraphe, puisque le livre ne fait pas allusion à la chute du royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ, mais qu'il fait allusion au royaume divisé. Nous pouvons déduire qu'il aurait été édité pendant la période de 930 à 722 avant Jésus-Christ. D'accord? Alors, il y a probablement plusieurs personnes qui ont contribué à la rédaction de ce livre-là. Par conséquent, l'auteur est bien difficile à identifier. Si on va juste très rapidement sur la structure du livre, mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec 1 Samuel, on a une première partie du livre qui est consacrée à la mise en place de Samuel, lorsqu'il va aller, puis il va désigner un premier roi qui va être Saül. Et puis ensuite, on a la royauté de Saül. D'accord? Si on veut le diviser en 2 sections très, très simples, à l'intérieur de la royauté de Saül va apparaître le futur roi et il va y avoir toute cette poursuite-là où Saül va essayer de mettre à mort David. Lorsqu'on va vers 2 Samuel, bien vous avez là aussi, on peut le diviser en 2 sections, la royauté de David, toute la partie où vraiment son expansion, le royaume grandit, tout ça, puis arrive le péché de David qui vient vraiment trancher le livre, qui vient couper le livre et ça va être la déchéance de la royauté de David parce que ça va être avec tous les problèmes familiaux, tout ça, le péché d'Amnon, la rébellion d'Absalom jusqu'à la mort de David. D'accord? Alors, 1 Samuel, vous pensez à Samuel, Saül, 2 Samuel, David, dans sa royauté. D'accord? Alors, parlons un petit peu de Samuel. Tout à l'heure, Madame a évoqué la prière de Anne. Le livre de Samuel commence sur cette prière de cette femme qui avait un cœur consacré à Dieu. Moi, personnellement, j'ai été touché encore une fois de voir à travers les livres de 1 et 2 Samuel la souveraineté de Dieu. Comment est-ce que la souveraineté de Dieu se manifeste? C'est vraiment frappant. Et comment les croyants, à ce moment-là, reconnaissaient l'entière souveraineté de Dieu. Verset 5, 1 Samuel 1, 5. « Alors, son époux Elkana avait deux femmes. Et au verset 5, on lit, « Mais il donnait à Anne une portion double lorsqu'il montait pour aller offrir le sacrifice, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. » Ça m'a frappé. Et donc, lorsque Anne va se rendre pour prier, c'est très, très clair pour elle. Et elle ne prétend pas, on ne perçoit pas là-dedans qu'elle... comment je dirais ça? Il n'y a pas de reproche à l'égard de Dieu. Tout simplement, c'est un fait. Si je suis stérile, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Prenez toutes les pistes que vous voulez pour y arriver. Dieu est souverain et en définitive, c'est Dieu qui permet ce qu'il veut. Et on va avoir exactement le même traitement par rapport au mauvais esprit qui vient sur Saül, par exemple. Les serviteurs de Saül vont dire « Le mauvais esprit que l'Éternel t'a envoyé. » Là, si tu lis juste ça puis tu lis pas toutes les Écritures, tu dis « Oh, attends un peu, OK, il y en a deux batchs à son service. » Les bons, les mauvais esprits. Non, non. L'Éternel est souverain. Et lorsque l'Éternel se retire, lorsqu'il retire sa main et qu'il livre quelqu'un au pouvoir du diable, en définitive, je suis obligé de dire, c'est Dieu qui l'a permis. D'accord? Même si ce n'est pas un serviteur de l'Éternel. Parce que Dieu est souverain. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucun bien qui ne survienne dans la vie d'une personne si ce n'est permis par Dieu. Et tant que je n'arrive pas à me réconcilier avec ce Dieu-là, avec sa souveraineté, je vais perpétuellement être en lutte avec Dieu, parce que lorsqu'il me fait du bien tel que moi je conçois le bien, les bénédictions telles que moi je les conçois, je vais être en paix avec ce Dieu-là. Et lorsqu'il ne me donnera pas ça, je vais être en lutte avec lui. Ce qui me frappait en relisant 1 et 2 Samuel, c'est de voir cette époque, et je crois que c'est la réalité encore dans bien des pays aujourd'hui, où il y a cette pensée de dire « Dieu est Dieu, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu bénit, Dieu châtie, Dieu donne la pluie, permet l'épreuve aussi, et l'Éternel est l'Éternel. » Je n'ai pas à questionner ça. Maintenant, ça n'empêche pas Anne de se tourner vers l'Éternel pour aller plaider sa cause. Et simplement là, simplement dans la vie de Anne, là, si tout le monde dans cette église pouvait avoir la théologie et la foi de Anne, théologie qui dit que c'est Dieu qui permet les épreuves comme les bénédictions, que l'Éternel soit béni, et la foi d'Anne qui lui dit « Oui, mais j'ai le droit d'aller plaider avec lui, j'ai le droit d'aller... » comme la veuve avec le juge unique, parce que dans le fond, il est bon. Et s'il a permis une épreuve, il sait ce qu'il fait à travers tout cela. Mais j'ai le droit de plaider auprès de lui. On a énormément à apprendre simplement sur la vie de prière ici. D'accord? Mais nous, comme occidentaux, il y a des choses là-dedans qui ne rentrent pas dans notre tête et qui génèrent en nous de la rébellion à l'égard de Dieu. Parce qu'on n'a pas cette attitude soumise de dire « Je suis en train de m'adresser à Dieu, les amis. » Là. Il décide. S'il décide de frapper, il est bon. S'il décide de donner des fleurs, il est bon. Il est toujours bon. C'est inquestionnable. Donc, on a cette femme de Dieu extraordinaire qui se confie en l'Éternel. Et puis, Dieu va l'honorer. Dieu va exaucer sa prière à travers le juge, le sacrificateur Élie. Il lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Et puis, en fait, elle n'aura pas qu'un seul enfant. Elle va en avoir plusieurs. Donc, c'est vraiment touchant de voir que lorsqu'elle avait sa prière, elle disait, « Éternel, si tu m'en donnes un, je te le donne. » Il n'est pas à moi, ça s'arrête là. Il est à toi, celui-là. Puis l'Éternel va honorer ça, puis il va lui donner d'autres enfants. Après, si je ne me trompe pas, 3 fils et 2 filles. Là. Et donc, Dieu va honorer cela par la suite. J'ai trouvé ça intéressant. Je travaille à partir des notes d'Alexandre. Si vous allez au milieu de... Je m'excuse, la page est numérotée 59 dans le haut, là, mais c'est notre troisième page. Vous avez un paragraphe où Alexandre souligne l'idée... Et je trouve ça intéressant que Samuel est vraiment un type de Christ. Et en quoi est-ce qu'il voit qu'il est un type de Christ? C'est par sa triple fonction. Samuel va être à la fois prophète, c'est clairement dit qu'il est un prophète, il est sacrificateur, donc médiateur entre Dieu et les hommes, et il est juge sur Israël, c'est le dernier des juges sur Israël. Et on n'aura pas quelqu'un d'autre qui va remplir ces trois fonctions-là avant qu'on arrive à Christ. Oui. On n'arrivera pas à une autre personne qui va remplir ces trois fonctions-là avant qu'on arrive à Christ. D'accord? Ça va se passer simplement lorsqu'on va arriver avec Jésus-Christ, où on va avoir une personne qui va être à la fois le prophète, le sacrificateur, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, et le roi. D'accord? On va lire ensemble 1 Samuel 8, des versets 1 à 9. Ce point tournant où le peuple demande à Samuel de lui donner un roi pour être comme les autres nations. Versets 1 à 9 et puis versets 19 à 22. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel, tout comme les fils d'Élie d'ailleurs, ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Encore, ces hommes-là étaient appelés à juger et à trancher quotidiennement dans des causes. Et donc, ils acceptaient des enveloppes brunes pour ne pas être droits. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations environnantes, chez toutes les autres nations autour. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. » On va aller tout de suite au verset 19. Vous pourrez lire cette mise en garde où Samuel décrit les implications pour le peuple d'avoir un roi. Verset 19, « Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans votre ville. » Lorsqu'on connaît l'histoire, c'est assez terrible, cette décision, cet appel du peuple d'Israël de dire, « On veut être placé entre les mains d'un homme plutôt qu'être placé entre les mains de l'Éternel. » C'est assez terrible. Qui voudrait être placé entre les mains d'un homme plutôt qu'être placé entre les mains de Dieu? D'accord? David avait plus de sagesse que ça lui-même lorsqu'il a prié l'Éternel. Et donc, le peuple refuse d'être distinct des autres nations. Encore une fois, ils s'inspirent des autres nations et veulent être comme eux plutôt qu'être fiers et heureux d'être une nation distincte. Ils veulent être comme les autres. Ils ne veulent plus avoir l'Éternel qui va régner sur eux comme berger, donc ils vont le rejeter. Dieu va suivre les instructions qu'il avait données à travers Moïse, d'accord? Dieu avait déjà prévu ce moment où Israël allait demander ce roi. Et donc, Dieu va honorer la demande du peuple. Au chapitre 9, l'Éternel conduit Saül vers Samuel et le désigne comme celui qui règnera sur Israël. Samuel oint Saül comme roi sur Israël et le présente au peuple qui répond « Vive le roi ». Maintenant, à la fin de la vie de Samuel, parce que là on arrive au terme de sa vie, à la fin de sa vie, il va redonner encore une fois des avertissements à Israël. Et c'est une des choses qui était soulignée dans les notes que je trouvais vraiment édifiant, c'est de voir, nous voyons la grâce de Dieu envers le peuple d'Israël, en ce que, ça fait combien de fois, là, ceux qui sont avec nous depuis le début, depuis la Genèse, ça fait combien de fois que Dieu répète sa loi à Israël? Ça fait combien de fois que Dieu leur répète, « Écoutez, si vous marchez avec moi, vous allez être bénis. Si vous éloignez de moi, vous allez subir ma colère. Vous allez être livrés aux nations environnantes. » Ça fait combien de fois? Et en ceci, il y a la grâce de Dieu qui est manifestée. Les avertissements comme ça qui viennent à la fin de chacune des vies des serviteurs de l'Éternel, c'est une manifestation de la grâce de Dieu où Dieu rappelle encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et nous devons tirer des instructions de ça. Pour notre propre cœur, pour notre propre foyer, pour notre propre vie. Le roi Saül est intronisé, il est là comme roi, et les premiers péchés de Saül vont arriver assez vite. Alors le premier, c'est celui du sacrifice, d'accord? Dans une situation où Saül est impatient d'attendre après le prophète pour venir, il va lui-même décider d'offrir les sacrifices plutôt que d'attendre le sacrificateur de Dieu. On va les lire ensemble, 1 Samuel 13. Et versets 10 à 14. Parce qu'avec cette faute-là, Saül est jugé et sa destinée est décidée. Avec cette simple faute-là, à ce moment-là. 1 Samuel 13, 10. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Je m'excuse, j'ai perdu mon... Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alors, on a une première déclaration où Dieu dit, j'ai choisi quelqu'un selon mon cœur. Et cette notion-là va demeurer importante. C'est pour ça que David va se démarquer comme roi en Israël, c'est parce qu'il va être quelqu'un selon le cœur de Dieu. Mais dans le cas de Saül, ce n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Ça devait être assez terrible, remarquer, de savoir, tu es au début de ton règne, et de savoir à partir de ce moment-là, la malédiction est déjà sur toi, ton temps court, c'est ça qui se passe. Ton temps est en train de courir, tu es déjà maudit par l'Éternel. Pardon? Oui, oui, c'est Dieu qui l'aura... En fait, c'est une bonne question, André. Pourquoi est-ce que c'est Saül qui se retrouve comme le premier roi? Pourquoi ça n'aurait pas été David, par exemple? Et je pense que pédagogiquement, clairement, Dieu est en train de dire, très bien, vous voulez un roi. Je vais vous donner un roi comme les rois des nations environnantes. D'accord? Parce qu'au début, Saül craignait l'Éternel, hein, c'est clairement dit dans le texte. Mais je vais vous donner un roi comme ceux des nations environnantes. Il va être beau, grand et fort. Vous allez être fiers de votre roi. Vous allez voir qu'est-ce que c'est d'être placé entre les mains d'un roi, d'un homme pécheur. Et donc, il y a vraiment une notion, selon moi, très pédagogique de la part de Dieu. Puis, après leur avoir donné ce roi-là, il va leur donner un roi qui va être une préfiguration du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs, David. Deuxième faute, il fait la faute qu'Israël a commis à plusieurs reprises. Il ne détruit pas complètement les Amalécites. Et donc, il va laisser la vie au roi. Ils vont se garder un certain nombre de brebis. On peut aller voir très rapidement ensemble. 1 Samuel 15, je m'excuse, verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui vient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. » C'est vraiment un homme, à ce point-ci, c'est vraiment un homme fourbe. Vous comprenez? Ils ont gardé les bêtes. Il dit, « Que le serviteur de l'Éternel soit béni, j'ai obéi entièrement à la parole de l'Éternel. » Ah oui, c'est quoi les bêlements? Ben, on les a gardés pour les sacrifices. On les offrait en sacrifice. Cet homme-là est rendu complètement fourbe à ce point-ci, puis... Il s'empiètre dans ses mensonges les uns après les autres. Samuel dit à Saül, « Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir. » En disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et donc, cette faute-là qu'on trouve chez Saül, c'est qu'il a essayé, par exemple, au début, avec le premier sacrifice qu'il va offrir à la place du sacrificateur, il essaie de domestiquer Dieu. D'accord? Il essaie de dire, je vais continuer à être un serviteur de l'Éternel. Maintenant, tu vas servir selon mes termes. J'ai besoin que tu sois là maintenant, Éternel. Et si tu ne m'envoies pas ton serviteur, c'est moi qui vais l'offrir, le sacrifice. Il ne va pas vers quelqu'un d'autre. Mais il essaie de domestiquer Dieu. Il essaie de mettre Dieu dans une boîte et de faire de lui ce qu'il veut. C'est la même chose qu'il est en train de faire ici. Maintenant, on voit que ses motifs sont fourbes. Ce n'est pas vrai. Il voulait un butin pour lui-même, tout ça. On va essayer de rendre ça un petit peu légitime, d'accord? En gardant le roi en vie, est-ce qu'il se prépare à contracter des alliances avec d'autres peuples? Je ne sais pas. Oui, Francis, tu as un commentaire? Oui, mais je ne pense pas qu'il est honnête lorsqu'il dit qu'il craint le peuple. D'accord? Je pense que avant ce qu'on voit dans le texte un petit peu plus tôt, je m'excuse, je suis en train de chercher. Au verset 8, 1 Samuel 15:8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Et donc, il était complice dans ça. Il était pas, on n'a pas d'indice qu'il avait une vraie crainte. Au contraire, on ne connaît pas le seul moment où on voit des craintes chez Saül, c'est s'il craint pour sa vie. Mais autrement, non. C'est un homme vraiment fourbe. C'est clair. Oui. C'est ça. Je ne peux pas revenir en arrière, lorsqu'on a traité toute cette question-là de lorsque Dieu dévouait par interdit un peuple, une ville, d'accord? Maintenant, alors si vous vous joignez à la classe ici, vous n'êtes pas familier avec les Écritures, vous entrez en contact avec ça, vous pourriez facilement déduire, ah, voici, ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament dont on m'avait parlé, qui est un Dieu cruel et dur. Maintenant, il faudrait retourner en arrière pour voir, justement, écouter les leçons sur les juges, tout ça. Mais Dieu est en train d'exercer un jugement sur les Amalécites. D'accord? Dieu a jugé cette nation-là et Israël, dans ce moment-là, est censé être l'instrument de Dieu pour appliquer ce jugement-là. C'est ça qu'il est censé faire. Et les directives étaient très, très claires. Tu gardes rien en vie, rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à l'Éternel pour tout ce qui n'avait pas de valeur à leurs yeux et ils ont gardé par cupidité tout ce qui avait de la valeur à leurs yeux, ils l'ont gardé pour eux. D'accord? Et ils gardent le roi en vie. Possiblement, comme c'était la pratique, on va le voir plus loin dans les rois, d'accord, lorsqu'il va y avoir les déportations, tout ça. Un roi qui faisait la conquête d'un territoire n'allait pas nécessairement tuer le roi. Des fois, tu t'amenais le roi avec toi, c'est très cruel, tu pouvais couper les deux mains, les deux pieds, tu l'amenais avec toi. Il était là comme ton chien de poche dans ton palais. Mais c'était une manière de pouvoir garder une ascendance sur le pays conquis et de dire, vous avez encore un roi, regardez, c'est lui qui cire mes souliers le matin. Ça, c'est votre roi. Alors, honorez votre roi, regardez, il se tient à mes pieds, tenez-vous à mes pieds. Et donc, c'est quoi la pratique qui est là dans l'esprit de Saül? Je ne sais pas. C'est quoi les alliances qu'il veut traiter? Je ne sais pas. Je ne peux pas croire que c'est simplement de la compassion. Je pense qu'il est plus faible que ça. Mais Dieu avait parlé clairement. Et donc, c'est Samuel qui va opérer le jugement de Dieu. Oui, verset 32. Vous pouvez aller au verset 32. Oui, Gérard.
Oui. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu. À partir de ce moment-là, il dit plus, on l'a dans un autre verset aussi, verset 15, qui dit Samuel, c'est pour offrir à l'Éternel ton Dieu. Alors, c'est plus qu'il s'adresse
ouais.
Son Dieu à lui.
Là. Non, je pense pas. C'est une manière d'honorer Samuel. Parce que Saül va dire, non, c'est mon Dieu encore. C'est ça qu'il va dire. Puis je veux servir. Un tout petit peu après, lorsqu'il va avoir le jugement, il va dire, non, c'est mon Dieu, je veux encore qu'il me serve, je veux encore qu'il me bénisse, ce Dieu-là. Mais c'est une manière de respect de s'adresser au prophète, puis de dire, non, mais celui que tu sers, que tu veux que j'honore, je suis en train de l'honorer. Là. C'est ça qu'on est en train de faire. Fait que manque-lui pas de respect en méprisant le sacrifice qu'on veut lui apporter. Là. Tu comprends? Mais c'est ça. Oui. Oui.
Et si on regarde dans les rois des autres nations, ces nations étaient soumises à leur roi.
Oui.
Donc, si déjà le roi n'a pas fait la volonté de Dieu et le peuple n'a pas respecté non plus sa demande quand il dit à Dieu qu'il veut un roi comme les autres nations, parce que si c'était soumis à leur roi, ils n'auraient pas gardé ce que Dieu interdisait parce qu'ils auraient obéi.
Oui, je comprends. Mais c'est pour ça que je vous dis, Saül est celui qui est en train de diriger tout cela. Et Saül, la faute est sur Saül de dire, regardez, on va s'en garder un peu les amis. Et donc, le peuple n'a pas désobéi à Saül. Il faut vraiment que j'avance parce qu'il me reste 10 minutes pour couvrir 2 livres. Je m'excuse. Mais donc, Saül est vraiment en tête de file là-dedans. Et puis, il essaie juste, écoutez, c'est la réplique d'Adam, là. D'accord? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la réplique d'Aaron. Non, mais le peuple est venu vers moi, ils m'ont donné de l'or. Je l'ai échappé dans le feu, il y a un veau d'or qui est sorti. C'est ça, d'accord? C'est exactement ça qui se passe ici. OK. Alors, c'est Samuel, et donc on voit encore en ceci que Samuel est le dernier des juges. Le roi d'Israël doit prendre ce rôle-là d'être un juge. Lorsque Samuel est envoyé avec son armée contre les Amalécites, il s'en va exercer le rôle d'un juge, il s'en va juger ces nations-là. Maintenant, c'est un roi charnel. Et donc, Samuel va une dernière fois exercer ce rôle-là de juge au verset 32. Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Oui, c'est violent. C'est extrêmement violent. C'est toute la colère de Dieu contre le péché des hommes. Et si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, si toutes ces choses-là pour vous, vous n'êtes pas familier avec ça, c'est étrange pour vous d'entendre ces choses-là. Je vous dirais la consolation pour un croyant, la consolation pour un chrétien, c'est de lire le journal chaque matin en disant « Un jour, l'Éternel passera toutes choses en revue et jugera toutes choses. » Et donc, lorsque je lis l'histoire de peuples qui sont en train de martyriser leurs propres citoyens parce qu'ils sont engagés dans une guérilla, puis le peuple est victime de tout ça, Dieu jugera toutes ces choses-là. Lorsque je lis des histoires comme le personnage de télévision là, qui en Angleterre actuellement, il y a comme 300 accusations, ils ont identifié au moins potentiellement 300 abus contre des enfants alors qu'il était une vedette de la télé dans les années 60, 70, tout ça. Il aurait abusé, ou 80, il aurait abusé plus de 300 enfants. Ces choses-là seront tous passées en jugement, d'accord? Ces choses-là vont tous un jour passer en jugement. Et tout ce à quoi on assiste ici, c'est le jugement d'Agag, c'est tout. Mais un jour, chaque homme, chaque femme devront comparaître devant l'Éternel. Je vais juste voir où est-ce que je suis rendu. Si tu veux dans le temps. C'est bien mentionné dans les notes, dans le haut de la page suivante. Voici l'important pour l'Éternel, ce n'est pas de lui offrir des sacrifices, mais d'obéir à sa parole et à sa voix. Et c'est ce que Dieu s'attend de nous, c'est que quotidiennement nous cherchions sa face pour honorer sa parole, pour lui obéir en toutes choses dans notre vie. Et Saül était un homme qui servait de la loi de l'Éternel pour essayer de la manipuler à ses fins. Pour ce qui est de Saül, si je veux résumer cela comme ça, tout le reste de sa course est une déchéance. Lorsqu'il va savoir qui est celui que Dieu a désigné pour être prétendant, ou lorsqu'il va s'en douter, il va poursuivre David parce qu'il a peur qu'il vienne prendre sa place. Et donc, il va aller d'échec en échec, même dans ses batailles. Il va avoir certaines victoires, mais souvent, les victoires vont venir par la main de David. Et à la toute fin de ce livre-là, on assiste à la mort de Saül, à la mort de ses fils. Et tout cela en raison de sa désobéissance. Regardons un petit peu, on va terminer la semaine prochaine, je n'aurai pas le choix, là, mais on va commencer ensemble le roi David. Alors, ces deux histoires-là s'entremêlent, d'accord? Le livre de 1 Samuel se termine sur la mort de Saül, mais l'histoire de David a commencé bien avant ça, avec l'onction. En fait, très rapidement, là, si vous voulez juste le situer, on vient de lire ce jugement-là. Si vous allez au chapitre 16, Samuel est envoyé à Bethléem immédiatement. Samuel va aller oindre David à ce moment-là. Et donc, le règne de Saül est loin d'être terminé, d'accord? Mais déjà, le prochain roi est désigné par l'Éternel. Et donc, Dieu va choisir quelqu'un qui va être selon son cœur. 1 Samuel 16, les versets 6 et 7. « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. » Étrangement, n'est-ce pas? un bel homme, grand et fort. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David va être loin. David va commencer à entrer au service de Saül. C'est par épisode. Alors, il est déjà connu par des gens comme un homme de Dieu. Il travaille pour son père, travaille dans les champs. Il est déjà connu comme un homme fort aussi, un homme vaillant. Et je pense que le passage important ici, c'est le verset 14. 1 Samuel 16:14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. D'accord? Et donc, on est dans l'Ancienne Alliance, on est dans l'Ancien Testament. Bientôt, les prophètes vont promettre un jour où l'Esprit de Dieu va être donné à une personne et il ne sera jamais retiré. D'accord? Saül a décidé de se détourner de l'Éternel. Saül a décidé de s'éloigner de l'Éternel. Dans son cœur, il a résisté à l'Éternel. L'Éternel a retiré son esprit. L'Esprit de Dieu venait sur les rois, l'Esprit de Dieu venait sur les prophètes, sur des hommes qui avaient été choisis par Dieu, sur des juges, parfois sur des femmes. L'Esprit de Dieu était sur ces gens-là, mais il n'était pas en eux de manière permanente. Et donc, l'Esprit de l'Éternel se retire, et puis il nous est dit ici, en fin de compte, que Dieu a fait ce qu'il a fait dans bien des cas. Il s'est retiré lui-même de Saül, puis il a laissé le diable venir prendre la place qu'il voulait prendre dans le cœur et dans la vie de Saül à travers un mauvais esprit. David va commencer à entrer au service de Saül simplement en venant jouer de la harpe, en venant jouer de la lyre dans sa présence. Et ça l'apaise. L'esprit de l'Éternel est déjà avec David à ce moment-là. Et lorsque Saül est dans sa présence, c'est comme s'il y a une portion de Dieu qui se rapproche de lui et qui apaise le mauvais esprit qui est sur lui. Ensuite de ça, il va se passer le combat contre Goliath. Ça va être les premiers hauts faits d'armes de David qui vont porter l'attention du peuple sur David. C'est la première fois où il va devenir un héros. C'est, je vous dirais, 1 et 2 Samuel, là, dans les livres de l'Ancien Testament, c'est probablement les livres les plus exaltants à lire, d'accord? Parce que l'histoire est belle, l'histoire est riche, l'histoire est grande. Là, c'est des affaires énormes qui se passent. Et donc, vous allez avoir ce jeune homme-là qui n'était pas un homme grand. C'était un homme vaillant, mais ce n'était pas un homme grand. Il nous est dit même qu'il était délicat de figure. Mais vous avez cet homme-là qui a un cœur selon Dieu. Et lorsqu'il entend le nom de l'Éternel profané, méprisé, il fait ni un ni deux. Il dit, « OK, Seigneur, moi, je vais y aller. S'il n'y a personne ici pour défendre ton nom, moi, je vais y aller. Je vais me porter de l'avant. » Et Dieu va être avec lui, il va abattre Goliath. Ça va être une victoire à ce moment-là contre les Philistins pour le peuple d'Israël. Et déjà, la réputation de David vient à l'attention de Saül, très rapidement. Il va y avoir l'alliance entre Jonathan et David, d'accord, le fils de Saül. Mais déjà, les gens vont commencer à crier, si vous allez au chapitre 18, verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles pensaient. Elles voulaient vraiment qu'il se fasse tuer, ce gars-là. C'est pas possible de crier ça devant le roi. Mais c'est ça qu'elles faisaient, d'accord? Et donc, Saül fut très irrité. Cela lui déplut. On lui raconte tout ce qui se passe là. Et au verset 9, on lit « Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite ». Donc, à partir de ce moment-là, David va devenir très rapidement personate non grata dans sa présence. C'est-à-dire qu'il est en danger dès qu'il est dans la présence de Saül. Il va devoir fuir très rapidement. Et il va y avoir toute cette période où Saül va le poursuivre. Et David se confie en l'Éternel. Puis on voit, une des choses que j'apprécie chez David, c'est ce désir d'honorer Saül, de ne pas porter la main sur Israël. Puis on voit comment Dieu prend soin de lui. Il y a un moment où il est allé se placer sous la protection des ennemis d'Israël parce qu'il était poursuivi. Et donc, il aurait été mis en position pour être testé dans sa fidélité. Certains voulaient dire bien, qu'on l'envoie contre Israël, on va savoir s'il est fidèle. Puis finalement, Dieu, dans sa souveraineté, a permis que des conseillers disent « Non, 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 Ça pourrait faire renverser la bataille contre nous. Gardons-le loin, justement, d'Israël. Éloignons-le, puis on servira de lui ailleurs. Et donc, il est préservé de faire du mal à Israël, d'accord? Mais cette protection-là que Dieu lui accorde, elle était déjà aussi, cette attitude-là était déjà dans le cœur de David, dans son attitude à l'égard de Saül, au moment de la mort de Saül, de la descendance de Saül même, lorsqu'il n'accepte pas qu'on maltraite des gens simplement par vengeance. Il y a cette idée que celui que Dieu a choisi, je n'ai pas le droit de porter la main sur lui tant que Dieu n'a pas décidé que c'était comme ça. Donc, je n'ai pas à le faire. Et c'est ce qui va faire que David, à deux reprises, a l'occasion de tuer lui-même Saül et ne le fera pas. D'accord? Parce que pour lui, il n'est pas légitime, il n'a pas le droit de faire ça. C'est l'Éternel qui règle le sort de ses serviteurs, ce n'est pas lui qui le fait. On va s'arrêter ici avec un mot de prière, il est moins deux. Et puis la semaine prochaine, on va terminer ça, puis on attaque un, deux rois. On va terminer avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, je veux te bénir pour ta grâce, Seigneur. Ce livre-là, ce n'est pas premièrement l'histoire de héros comme David ou comme Samuel, Seigneur. C'est l'histoire d'un Dieu merveilleux, un Dieu gracieux, un Dieu bon, un Dieu qui prépare un plan de sauvetage tellement plus grand qu'un roi David, qui était tout un homme extraordinaire, un homme selon ton cœur, Seigneur, et je ne questionne pas cela, mais tu avais un plan de sauvetage tellement plus grand, Seigneur. Et cette déchéance de Saül et les échecs même de David, Seigneur, nous parle d'un jour glorieux qui devait venir. Ce jour glorieux, Seigneur, il est déjà passé. Nous l'avons observé dans l'histoire de l'humanité par ta venue, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le grand vainqueur, tu es le grand guerrier qui est allé sur cette croix t'offrir un sacrifice pour nos péchés et vaincre la mort et vaincre le péché et vaincre l'ennemi de nos âmes, le diable, Seigneur. Et tu es ressuscité d'entre les morts et tu règnes éternellement. Ô Seigneur Jésus, notre roi, accorde-nous la grâce cette semaine, Seigneur, de marcher avec cette conscience que nous n'avons pas un homme qui peut faillir comme roi, mais que nous avons un homme qui est l'homme Dieu, le Fils de Dieu, qui est notre roi et qui nous précède dans la mêlée, Seigneur, qui nous préserve de nos ennemis, qui juge ceux qui se dressent contre nous, qui nous protège, qui nous exhorte, qui examine notre cœur, Seigneur. Sois béni. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.